est 23h à Paris, 22h en temps universel, 1h à Mamoudzou.
24h en France sur RFI.
Merci d'écouter RFI comme chaque soir. À la même heure, on se retrouve pour 30 minutes et 100% d'actualité française.
Alban Le Prince.
Et à la une ce week-end, ou en tout cas avant Noël, la promesse de François Bayrou. Ce soir, le Premier ministre toujours en quête d'un gouvernement. Il était l'invité de France 2. Journée de deuil national, lundi 23 décembre en France, après le passage du cyclone Chido à Mayotte. C'est Emmanuel Macron arrivé ce matin sur place qu'il a annoncé. Les autorités redoutent des centaines, voire des milliers de morts. Au sommaire également, un tribunal plein à craquer. 51 accusés des journalistes venu du monde entier. Le procès des viols de Mazan a pris fin aujourd'hui. Le verdict est tombé. Tous les hommes jugés ont été reconnus coupables. Retour sur cette journée hors norme dans ce journal. Et puis un choc des titans demain près de Paris en MMA avec le combat franco-français Saladin Parnasse-Wilson Varela. Un événement que tous les fans attendent avec impatience.
24 heures en France.
Un gouvernement dans le week-end ou en tout cas avant Noël, c'est la promesse ce soir de François Bayrou, le Premier ministre invité de France 2 quelques heures après avoir reçu les partis politiques à Matignon. Tous étaient conviés à l'exception du Rassemblement National et de la France Insoumise. Résultat, un accord de non-censure avec la gauche n'a jamais paru aussi lointain, Victorien Villaume.
1h30 de discussion et finalement l'impression pour la gauche de parler à un mur. La patronne des écologistes, Marine Tondelier.
À un moment, il faut qu'ils entendent que nous sommes responsables depuis le départ. Et eux, ils sont aussi responsables de ne vouloir rien bouger, rien changer. Et au moment où il y a la censure, on recommence à zéro, ils nous remettent dans la même impasse.
François Bayrou a proposé aux forces politiques présentes de rentrer au gouvernement, refus catégorique de la gauche. Autre proposition, une conférence sur la réforme des retraites que le nouveau Front populaire rêve d'enterrer, le socialiste Olivier Faure.
C'est évidemment très insuffisant. Ce que nous souhaitons, nous, c'est qu'il y ait la possibilité de suspendre cette réforme des retraites dès à présent et qu'au mois de septembre, on puisse avoir une abrogation de la réforme Borne.
Invité sur France 2 dans la soirée, François Bayrou explique à contrario être optimiste pour trouver un terrain d'entente.
Je crois qu'ils ont une réflexion entre eux. Ils n'ont pas envie qu'on dise qu'ils ont changé de camp. Mais je crois qu'ils ont envie de ne pas aller à la catastrophe.
Vous avez le sentiment d'avancer.
Oui, exactement.
Face à la falaise du déficit public, la gauche doit de toute manière l'aider à réussir, estime François Bayrou.
Victorien Villaume. Une journée de deuil national en France, lundi 23 décembre, annonce aujourd'hui d'Emmanuel Macron qui a promis de rebâtir Mayotte. Défigurée par le cyclone Chido il y a 5 jours, une loi spéciale et un renforcement de la lutte contre l'immigration clandestine. Et face à l'ampleur des dégâts, le président arrivé ce matin à Mayotte, y restera finalement jusqu'à demain pour rencontrer notamment les victimes de cette catastrophe qui a fait au moins 31 morts. Il était interrogé par nos confrères de la presse locale qui évoque sur place plusieurs dizaines de milliers de morts. Emmanuel Macron leur a répondu.
Je serai très prudent sur les chiffres. Je pense que le chiffre qui a pu être évoqué dans la presse locale, rien ne permet de le corroborer. Aujourd'hui, on a une trentaine de chiffres officiellement. À partir de 32, c'est ça, monsieur ?
31.
Il y a un travail qui est fait. Un sous-préfet qui a été mis à disposition de monsieur le préfet est en charge de ce travail. Et donc, si 31 sont officiellement décomptés à date, ce travail va se poursuivre. Mais je pense qu'il est vraisemblable qu'il y ait beaucoup plus de victimes.
Autre annonce d'Emmanuel Macron, toutes les communes devraient être approvisionnées en eau et en nourriture d'ici dimanche soir. La Fondation de France a quant à elle déjà réussi à récolter 14 millions d'euros. Plus de 1000 réservistes de la santé, infirmiers, soignants, ingénieurs se sont de leur côté déclarés volontaires pour partir à Mayotte, d'après le directeur général de la santé aujourd'hui. En parallèle, la Fédération France Assureur a annoncé l'envoi d'une mission de reconnaissance pour anticiper les déclarations de sinistres, sachant que très peu de Mahorais ont souscrit un contrat d'assurance, les précisions de Justine Fontaine.
Des experts sont prêts à décoller pour Mayotte dès qu'ils auront le feu vert du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. C'est ce qu'explique Florence Lustmann, présidente de France Assureur.
Les informations qui vont être recueillies par 2-3 experts qui vont aller sur place, elles seront partagées avec l'ensemble des assureurs. L'objectif, c'est de disposer sans délai d'une vision précise de la situation, de façon à anticiper la gestion des sinistres.
En 2020, seuls 6% des foyers à Mayotte étaient couverts par une assurance habitation. De quoi faire de l'île le département français le moins couvert par les assurances. De nombreux habitants ne pourront donc compter que sur eux-mêmes ou bien sur l'indemnisation promise ce jeudi par Emmanuel Macron. Quant aux entreprises, la plupart sont des sociétés individuelles, mais elles sont plus nombreuses tout de même à être couvertes, estime Florence Lustmann.
Il y aura sans doute assez peu de dommages assurés chez les particuliers, compte tenu de cette faible couverture en assurance, mais en revanche, il va y avoir des dommages très très importants sur les entreprises, beaucoup plus que les particuliers.
De nombreuses entreprises ont perdu tout leur stock et ont parfois vu leurs locaux totalement détruits par le cyclone.
Et notez que le réassureur public a estimé les dégâts pris en charge par les assurances entre 650 et 800 millions d'euros. Il est 23h05 à Paris où la cour d'appel se prononcera le 20 février sur la demande de libération conditionnelle de Georges Abdallah. Le militant libanais pro-palestinien est détenu depuis 40 ans en France pour complicité d'assassinat de deux diplomates américains et israéliens. Mi-novembre, le tribunal d'application des peines antiterroristes avait autorisé sa libération à condition qu'il retourne au Liban. Décision suspendue dans la foulée par l'appel du parquet antiterroriste. Les yeux du monde étaient braqués vers Avignon aujourd'hui, cette ville du sud de la France où un procès historique a pris fin aujourd'hui, celui des viols de Mazan. Dominique Pellicot a été reconnu coupable d'avoir drogué sa femme et recruté des hommes sur Internet pour la violer et condamné à 20 ans de prison, la peine maximum. Ses 50 co-accusés ont eux aussi tous été reconnus coupables et ont écopé de peines allant de 3 à 15 ans de prison. La fin de 4 mois de débat. Le récit de cette journée avec Tanita Fallet.
Un verdict qui ne fait pas l'unanimité. Maître Zavaro, avocate de Dominique Pellicot, n'a pas exclu de faire appel. Pour elle, les peines des co-accusés de son client ne sont pas justifiées.
Monsieur Pellicot n'était pas forcément le chef d'orchestre et les autres n'étaient pas les musiciens. Pour autant, je pense que par l'énoncé de ce verdict, la cour a condamné le chef d'orchestre en faisant une différence justement entre lui et les différents musiciens qui composent cet orchestre.
Mais pour la majorité des avocats de la défense, c'est le soulagement, Maître Minier.
J'espère que les gens se rendent compte, après ces semaines et ces mois de procès, comment est rendue la justice en France, qui n'a pas cédé sous le poids de la vindicte populaire.
Et devant le tribunal, elles étaient environ 200 à crier leur déception après l'annonce des peines. Mais Gisèle Pellicot a avant tout voulu adresser un message de réconciliation.
J'ai confiance à présent en notre capacité à saisir collectivement un avenir dans lequel chacun, femme et homme, puisse vivre en harmonie.
Gisèle Pellicot qui a été acclamée une dernière fois à sa sortie du tribunal. Tanita Fallet, Avignon, RFI.
Dominique Pellicot, qui pourrait faire appel de sa condamnation, n'en a pas pour autant fini avec la justice. Mise en examen par le pôle Cold Case, il pourrait être jugé pour une tentative de viol en 1999 en Seine-et-Marne, mais aussi pour le viol suivi du meurtre d'une jeune femme de 23 ans en 1991 à Paris. À Paris, justement, Mathias Pogba a été condamné aujourd'hui à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Il était jugé par le tribunal correctionnel dans l'affaire de séquestration de son frère. Le footballeur et champion du monde, Paul Pogba, les précisions d'Aram Beng.
3 ans de prison, dont 2 avec sursis pour Mathias Pogba. Le frère aîné de l'international français devra purger une peine d'1 an ferme aménagée sous bracelet électronique. Cette condamnation est également assortie d'une amende de 20 000 euros pour avoir participé à la tentative d'extorsion de fonds et aussi pour avoir exercé des pressions sur Paul Pogba et sur sa famille pour obtenir le paiement des 13 millions d'euros qui lui étaient réclamés. Mathias Pogba compte faire appel de ce jugement, ce qui suspendra la décision jusqu'à nouvel ordre. Les 5 autres suspects de cette affaire écopent eux aussi de lourdes peines. Rushdan K, présenté comme le cerveau du groupe, est condamné à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention. En plus d'une amende de 40 000 euros à régler, il est aussi sous le coup d'une interdiction de port d'armes pendant 10 ans. Les 5 autres suspects devront s'acquitter chacun d'une amende de 20 000 euros et sont eux aussi interdits de port d'armes. Ils ont tous été reconnus coupables d'extorsion, de séquestration et de participation à une association de malfaiteurs.
Aram Beng. Et puis cette fois-ci sur le plan sportif, un combat que les fans de MMA attendent de pied ferme, un choc des titans 100% français à Paris demain dans l'arène de la Défense Arena de Nanterre sous les yeux de plus de 30 000 spectateurs. Ce duel, il opposera Wilson Varela au champion incontesté des moins de 70 kilos du KSW Saladin Parnasse. Depuis son enfance, le jeune homme originaire d'Aubervilliers se prépare pour ses combats au sommet. Un ovni dans le monde du MMA qui se donne les moyens de rêver très grand, Sofiane Amazian.
Sérieux, appliqué et méthodique, Saladin Parnasse révise ses gammes avant le combat tant attendu par le public français. Lui, le combattant de la région parisienne face à son compatriote marseillais. Parnasse part favori de l'affrontement car le MMA coule dans ses veines depuis l'âge de 11 ans.
C'est un sport très difficile. Je me réveille MMA, je mange MMA, je dors MMA tout le temps. C'est ce que j'aime faire et c'est une passion avant tout aussi. Je pense que c'est un sport qui demande beaucoup de rigueur.
Une rigueur qui a emmené Saladin Parnasse vers les sommets du KSW, une organisation polonaise très connue et qui veut surfer sur la popularité du français.
Je ramène une grosse organisation et elle s'installe en France et ça me fait super plaisir et ça fait plaisir aussi aux fans français et ça ouvre des portes pour les combattants français et pour le sport en général.
À seulement 27 ans, le combattant d'origine marocaine détient deux ceintures dans deux catégories différentes et a échoué de peu il y a quelques mois à en récupérer une troisième prouesse jamais réalisée dans le MMA, son manager Stéphane Chauffurier.
C'est le petit Mohamed Ali du MMA, c'est-à-dire qu'il touche sans se faire toucher. Je pense qu'il peut encore aller très loin.
Saladin Parnasse, programmé pour régner et battre des records, jamais un combat sur le sol français n'aura réuni autant de monde dans une salle.
Et le combat Wilson Varela Saladin Parnasse ne débutera pas avant 21h30 en universel, 22h30 heure de Paris du côté de la Défense Arena de Nanterre. Si vous voulez y assister, allez-y, il reste encore quelques places disponibles à partir de 70 euros. Il est 23h11 à Paris, 22h11 en temps universel.
24 heures en France. Alban Le Prince.
Notre invité culture ce soir est considéré comme l'un des meilleurs mentalistes et illusionnistes de France. Victor Vincent est en tournée dans toute la France et en Belgique avec son nouveau spectacle fantastique, un savant mélange entre pièces de théâtre et tours de magie. Il est notamment ce soir à Meaux en région parisienne, demain à Laon dans le Nord et à l'Olympia à Paris les 22 et 23 décembre. Sophie Torlotin lui a tendu son micro RFI pour une rencontre extraordinaire.
Bonjour Victor Vincent.
Bonjour.
Avant de parler de votre nouveau spectacle intitulé Fantastique, Fantastique avec un K, une question que se posent nos auditeurs, c'est quoi un mentaliste? Est-ce que c'est un mélange de magicien et de psychologue?
Alors, de magicien, oui, de psychologue, non. En fait, un mentaliste, c'est un homme de spectacle, moi je me considère comme ça, et je dis souvent que j'utilise mes cinq sens pour donner l'illusion d'un sixième, comme celui de lire dans les pensées, par exemple, ou de prédire l'avenir. Mais j'utilise, moi, le mentalisme pour raconter des histoires et pour offrir au public une expérience émotionnelle qu'ils ne peuvent pas avoir ailleurs, ni au cinéma, ni à la télévision, ni au théâtre, parce qu'il y a souvent ce quatrième mur. Là, non, il y a vraiment une interaction et c'est quelque chose de très immersif et on s'amuse beaucoup.
Et comment devient-on mentaliste?
Eh bien, j'ai assisté à une démonstration un jour et j'ai tellement été cueilli que je me suis dit que si je devais faire du spectacle vivant, ça serait intéressant de donner aux autres ces émotions que j'ai eues moi-même. Et puis après, j'ai eu la chance d'avoir un mentor qui m'a formé et qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a fait faire mes premiers spectacles. Et donc, d'année en année, j'ai appris et puis voilà, c'est devenu mon métier.
Ce soir, nous allons vivre des choses étranges, notamment une séance fantastique présentée au 19e siècle à Paris.
Fantastique est donc votre nouveau spectacle, Victor Vincent, que vous présentez partout en France. Vous commencez par mettre le public en situation, avec une histoire qui convoque Maupassant, Houdini, Georges Méliès. C'est une façon de mettre les spectateurs en condition?
Oui, c'est une façon de les mettre en condition. Je leur raconte des histoires. En fait, le spectacle s'appelle Fantastique, donc on parle du genre fantastique, Maupassant qui a créé ce genre, mais qui vivait lui-même dans sa vie des choses étranges. Parce que comme il était atteint de syphilis qui lui rongeait un peu l'esprit, il avait des visions, il confondait la réalité et l'illusion. Et c'est précisément la définition du fantastique.
Et vous allez vous concentrer sur votre objet et sur l'endroit où il se trouve précisément chez vous.
Vous faites monter des spectateurs sur scène. Le hasard joue un rôle.
Ah oui, bien sûr.
Mais vous bluffez le public en devinant à quoi pensent, par exemple, ceux qui vous rejoignent.
Oui.
C'est magique ou alors c'est parce que les gens sont prévisibles?
Oh non, d'abord, je jette un chapeau dans la salle et celui ou celle qui le reçoit peut accepter de monter sur scène ou de rester à sa place. C'est sans pression. Après, est-ce que c'est de la magie? Non, parce que je n'ai pas de pouvoir magique. Est-ce que les gens sont prévisibles? Oui et non, c'est-à-dire que, ou si c'est oui, moi le premier, donc voilà, ça ne fonctionne pas là-dessus.
Vous ne révélerez pas vos trucs, évidemment,
Victor. Je ne vais pas vous dire le secret, mais c'est vrai que l'idée, c'est de faire des choses spectaculaires. Qu'à la fin, on se dise, mais comment il a fait? Comment c'est possible? Et puis aussi, ce que j'aime, c'est que le public me dise, au-delà des expériences qui nous ont bluffés, on a été embarqué dans une histoire, dans un voyage au 19e siècle. Là, on va revivre une séance fantastique telle que ça se faisait à cette époque-là. J'aime bien repartir un peu dans le passé. Et j'aime mettre tout ça sur scène et offrir vraiment un spectacle pour toute la famille, mais un spectacle qu'on ne peut pas avoir ailleurs, des émotions fortes. Et les gens aussi sont surpris, on rit beaucoup dans le spectacle. C'est pas un spectacle d'humour, mais l'humour fait partie aussi du show.
Mais ça suppose quand même de votre part, Victor Vincent, de très grandes capacités d'observation, d'attention aux détails et aussi de mémorisation.
Je propose le même spectacle tous les soirs, mais les gens qui montent sont différents. Et donc, il faut être à l'écoute d'eux. Je dis souvent le mentalisme, c'est écouter l'autre lorsqu'il ne parle pas. Tout est extrêmement précis, il y a une lumière qui est très cinématographique. La musique aussi a été composée pour le spectacle. Le spectacle est quand même identique d'une représentation à l'autre, même si évidemment les gens sont différents et qu'ils pensent à des choses différentes.
Merci beaucoup Victor
Merci
Vincent.
À vous. Merci de m'avoir reçu.
En tournée en France et en Belgique jusqu'en mars 2026, il était au micro RFI de Sophie Torlotin.
Reportage France.
C'est une question qu'on est nombreux à se poser. Existe-t-il d'autres planètes sur lesquelles la vie serait possible dans l'univers? Depuis la découverte, il y a 30 ans, de la première exoplanète, près de 5700 autres ont été identifiées hors du système solaire. Et ce n'est qu'un début. Problème, jusqu'ici, aucune d'entre elles n'a réuni toutes les conditions essentielles à la vie. Alors pour en trouver d'autres, habitables cette fois-ci, un satellite est en cours de construction. Son nom, Plateau. Jeanne Richard a pu se rendre dans l'un des sites de montage.
Avant d'entrer dans l'immense salle blanche, la pièce où est monté et testé le satellite, il est essentiel de s'équiper, avertit Catherine Vogel, chef du programme Plateau chez le constructeur Thales Alenia Space.
Il ne faut pas rentrer de poussière à l'intérieur. Donc tout personnel qui travaille en salle blanche doit être équipé d'une charlotte, d'un cache-barbe, d'une blouse et de surchausses.
Il faut éviter que le moindre grain de poussière ne vienne enrayer la machinerie complexe du satellite.
Il faut savoir que ce satellite part à 5 fois la distance Terre-Lune et il doit être entièrement autonome.
Pour l'instant, des amoncellements de câbles et de matériel informatique s'échappent d'un module en cours de montage. Bientôt, 26 caméras de haute précision y seront ajoutées. Une fois dans l'espace, elles garderont 200 000 étoiles en ligne de mire pendant 2 ans d'affilée.
Un défi technologique, c'est d'être capable de pointer les étoiles sans bouger, avec une précision qui serait la même que de tenir un grain de sable dans la main, viser ce grain de sable avec un laser à partir d'une distance d'un kilomètre.
Le tout sous d'énormes contraintes de température qui ne doivent pas perturber les instruments. Sébastien Guérère, responsable du générateur solaire.
Quand le spécimen est en l'air, un coup il va être chauffé par le soleil, un coup il va être masqué. Donc du coup, vous allez avoir tout le temps des effets chaud-froid entre moins 94 degrés et plus 163 degrés.
Dans une immense capsule, il teste le bouclier thermique qui devra protéger le satellite.
Quand on ferme le gros couvercle, on va faire le vide et on va pouvoir faire monter l'enceinte à des températures très élevées ou très basses dans des conditions qui se rapprochent de ce qu'on verra dans l'espace.
Une fois en orbite, Plateau devra repérer l'ombre infime des planètes quand elles passent devant leur soleil et réaliser toute une série de mesures pour dire si elles peuvent être habitables, explique Catherine Vogel.
La vie ailleurs, ça veut dire des planètes qui soient dans des zones où il y a potentiellement de l'eau. Donc il ne faut pas être trop près de son soleil parce que sinon toute l'eau s'évapore et on brûle. Il ne faut pas être trop loin parce que sinon tout gèle. Donc on cherche vraiment à trouver des planètes qui soient similaires à la Terre. On est aujourd'hui au début d'une grande ère de découverte. Je pense qu'on cherche tous à savoir si on est les seuls et la probabilité qu'on le soit est de plus en plus faible au fur et à mesure de nos découvertes.
Le satellite doit être lancé fin 2026 avec, elle espère, les premières trouvailles en 2027.
Le reportage de Jeanne Richard pour RFI, les 1h19 à Mamoudzou, 9h19 à Nouméa.
Le journal de l'Outre-mer.
Bonsoir Benoît Ferrand, et après le passage du cyclone Chido à Mayotte, la vie reprend presque son cours.
Bonsoir. Il faudra, bien sûr, reconstruire en un peu plus solide, si possible. Mais pour l'instant, les urgences sont prioritaires, au premier rang desquelles fournir de l'eau potable et de la nourriture à la population. Le point ce jeudi matin avec Charles de Quillac de la Première Mayotte.
Chaque jour, entre 25 et 50 tonnes de denrées alimentaires atterrissent à Mayotte. La préfecture les confie aux communes. Ce sont aux maires d'organiser la distribution dans les territoires, sur le même principe que lors de la crise de l'eau. Les premières distributions d'eau et de nourriture devraient commencer dès aujourd'hui. Elles se feront dans l'extrême nord et l'extrême sud de l'île. La préfecture privilégie ces communes car elles sont éloignées de Mamoudzou et de ses grands supermarchés. À l'est, entre Bandrélé et Dzoumogné, les distributions devraient débuter en toute fin de semaine, sauf à Mamoudzou, où vit plus de la moitié de la population de l'île. Seront aussi distribuées des pastilles de potabilisation destinées à ceux qui s'alimentent dans les puits et les rivières. Il est aussi demandé aux maires de gérer leurs déchets. Dans chaque village, un point de dépose des ordures sera instauré. Les habitants sont invités à y déposer les sacs poubelles. Il est demandé aux Mahorais de limiter leurs déplacements en voiture. Les camions doivent rouler au mieux pour acheminer la nourriture à tous. Enfin, le préfet estime qu'il faudra encore une douzaine de jours pour que l'aéroport accueille des vols commerciaux. Tous ceux qui le veulent sont invités à partir et cela fera toujours moins de bouches à nourrir durant ces mois qui s'annoncent difficiles.
Rappelons que le président Emmanuel Macron est arrivé ce jeudi matin à Mayotte à bord d'un avion contenant 4 tonnes d'aide humanitaire et de matériel médical. Le chef de l'État s'est tout de suite rendu sur le terrain et ce qu'il a vu et entendu s'est traduit dans la journée par une annonce qui n'était pas prévue, le prolongement de sa visite jusqu'à ce vendredi. Direction maintenant l'autre département français de l'océan Indien, l'île de la Réunion, où vit une importante communauté mahoraise et où la solidarité n'a donc évidemment pas tardé à se mettre en place, chacune et chacun offrant ce qu'il peut à la mesure de son temps et de ses moyens disponibles. Reportage à la Maison de Mayotte à Saint-Denis, signé Adjaya Waro.
On a le lait, de l'eau, de l'huile, sardines, du riz, sel, pâtes. C'est nous qui avons acheté pour aider à Mayotte.
Les dons de l'association culturelle mahoraise Aviaco devraient intéresser la préfecture et pourraient rapidement être acheminés dans l'île au parfum, même si...
Je ne sais pas que ça part quand.
Un peu plus loin, toujours dans la maison de Mayotte, les petites mains solidaires s'affairent à trier les vêtements.
On est venu hier emmener des denrées alimentaires, des vêtements, et aujourd'hui on est venu aider parce qu'on avait du temps.
On est là pour apporter notre aide, notre soutien. On fait notre façon à nous d'aider et de... soutenir ceux qui sont restés à Mayotte.
À l'intérieur, Timi Dayandiza, elle, prépare les cartons. Elle est bénévole pour la délégation de Mayotte à La Réunion.
Là, on est en train de trier les denrées alimentaires, mais pas que. Les produits hygiéniques également. On a reçu des médicaments, de la lessive. Il y a vraiment de tout. Des sacs de couchage. Là, on essaye de tout mettre en ordre.
Et parmi tous les dons récoltés depuis lundi, aucun n'est encore parvenu à l'île au parfum. Mais 10 palettes devraient partir ce week-end.
En plus du pont aérien, un pont maritime se met aussi en place entre La Réunion et Mayotte. Un navire réquisitionné de la CMA-CGM a ainsi quitté mercredi après-midi la pointe des Galets avec à son bord pas moins de 158 containers. Mayotte, dévastée par un cyclone dans l'océan Indien, mais dans l'océan Pacifique, c'est un tremblement de terre qui a frappé le Vanuatu et sa capitale, Port Vila. À 600 km de là, la solidarité, là aussi, s'est organisée en Nouvelle-Calédonie, avec le départ ce jeudi d'un appareil militaire qui était censé notamment récupérer 20 jeunes Calédoniens partis au Vanuatu en colonie de vacances. Écoutez cet officier des forces armées en Calédonie au micro de Charlotte Manvi.
La priorité numéro un, c'est vraiment mettre les enfants en sécurité et ça passe par effectivement des moyens militaires des FAN qui vont donc les ramener ici à la Tontouta. Pour les Vanuatés, on va continuer à les soutenir avec plusieurs palettes de bouteilles d'eau, des rations de combat, des moustiquaires, vraiment tout le minimum nécessaire pour qu'ils puissent de nouveau essayer de vivre normalement. On a déjà des équipes qui sont arrivées hier, des experts techniciens, spécialistes notamment des télécommunications qui sont déjà sur place. On a aussi la sécurité civile aussi, les FAN qu'on transporté vers le Vanuatu.
Fin de cette édition. Bonne soirée.
Bonne soirée, Benoît.
Le Conseil Santé avec Sounou Assurance.
Et aujourd'hui, on s'intéresse à l'anxiété, la phobie sociale, les TOC et autres états de stress post-traumatique. Les femmes sont deux fois plus touchées que les hommes par ce phénomène qui concerne 15 à 20% de la population. Et pour en parler, Caroline Paré reçoit le professeur Antoine Pellissolo, psychiatre à l'hôpital Albert Chenevrier de Créteil, près de Paris, à PHP.
Professeur Antoine Pellissolo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre chef de service à l'hôpital Henri Mondor de Créteil en région parisienne. Comment se préserver de l'anxiété face à l'actualité ou aux menaces sur l'environnement sans tomber dans l'indifférence ?
Voilà, il faut trouver le bon dosage. Donc le maître mot, je dirais que c'est la maîtrise de la source d'information. Parce qu'il ne faut a priori pas se couper de ces sources d'information, en tout cas quand on se sent concerné et intéressé par l'actualité. Mais évidemment, maîtriser le flot. Le flux. Et donc, on a malheureusement trop d'informations disponibles, d'une certaine manière, et en tout cas, de manière un peu brute. Et donc, il faut réguler. Donc, c'est vraiment le maître mot, c'est maîtrise, régulation, notamment du temps. Donc, se donner des temps où on va pouvoir, et en choisissant les sources, si possible, s'informer. Et puis, se donner du temps où on va digérer, respirer à côté pour pouvoir métaboliser tout cela.
Et quels signes doivent alerter, peut-être inciter à une certaine déconnexion?
Je crois vraiment quand on se sent en effet dépassé, en tout cas dans un état de tension en fait ou de stress permanent, si c'est le cas, parce que tout le monde réagit pas de la même façon, mais les informations sont quand même en majorité anxiogènes, notamment en ce moment. Et quand on a l'impression qu'on n'en sort pas, c'est-à-dire qu'on a en permanence des questions. Je pense que c'est souvent, on ouvre tous les dossiers, on entend plein de choses sur plein d'actualités dans le monde ou qui nous concernent plus. Et on ouvre et on clôt pas ces dossiers parce qu'en fait, il n'y a pas de fin sur le moment, on n'a pas de solution. Donc il vaut mieux vraiment se dire que quand il y en a trop, et en fait, ça envahit l'esprit. Donc là, il faut déconnecter parce qu'il faut de l'espace pour autre chose.
Merci professeur Pellissolo. Aujourd'hui dans Priorité Santé, on va parler des accidents de la main, cause majeure de consultations aux urgences. Comment les prévenir, jardinage, bricolage, accidents professionnels, protéger ses mains. Comment éviter surtout les séquelles. C'est à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel, à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Le rendez-vous est bien noté, Caroline. C'est bientôt la fin de 24 heures en France. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Merci à Adrien Delgrange, rédacteur en chef de cette édition. Valentin Vanner à la réalisation. Eric Di Crescenzo aussi. Dans quelques minutes, le retour de l'actualité africaine avec Zéphirin Quadio. Il sera question du Tchad qui exige un départ des forces françaises avant le 31 janvier. Nouveau coup de pression après l'annonce récente de la rupture des accords de coopération militaire. Mais avant cela, on file à New York pour la bourse.
Le rendez-vous de Wall Street.
Avec Pierre-Yves Dugas.
Après 10 séances consécutives de baisse, du jamais vu depuis 1974, l'indice Dow Jones se regagne tout juste 15 petits points et clôture à 42 342. L'indice du Nasdaq chute de 10 points et revient à 19 373. Le rebond des actions est clairement freiné par la poursuite de la dégradation du marché obligataire. Le rendement du T-bond à 10 ans grimpe même à 4,57. Les investisseurs ne croient plus à une baisse de taux directeur de la Fed avant des mois, à la suite des commentaires du patron de la Banque centrale américaine hier. Jerome Powell souhaite une reprise de la désinflation en vue de justifier une poursuite de la baisse du taux directeur de la Fed. Dans son esprit, la bonne santé de l'emploi aux États-Unis, la demande encore solide, lui permettent de prendre son temps. Certes, Jerome Powell croit toujours à une reprise de la baisse de l'inflation, mais il attend qu'elle se manifeste à nouveau. Voilà qui déclenche de forts ajustements dans les portefeuilles des investisseurs. La possibilité du maintien du taux directeur de la Fed à son niveau actuel jusqu'au printemps, voire jusqu'à l'été, est devenu crédible. L'euro, qui a été massacré hier, remonte un peu et revient à 1,0366. Le baril de pétrole américain dans son contrat pour livraison au mois de janvier recule de plus d'1% et revient à moins de $70. D'autres matières premières sont dans le rouge, le cuivre, le cacao, le coton, le café par exemple. L'indice Dow Jones grappille moins de 0,1% et le Nasdaq cède, lui, 0,1%.
L'épopée des musiques noires.
Né en décembre 1954, le mensuel Jazz Magazine est devenu la référence historique des musiques héritées de la culture afro-américaine. Depuis sa naissance, il y a 70 ans, la rédaction a conservé ce désir d'être le prescripteur du temps présent. Son directeur, Edouard Renker, célèbre avec nous cet anniversaire aux côtés du musicien malien Pedro Kouyaté.
L'épopée des musiques noires, Joe Farmer.
Samedi, à partir de 13h30 PM.
RFI.